Pauvre fou.
J'aboutis dans une salle située au-dessous du niveau du sol, éclairée avec parcimonie, aux murs rocailles comme les fontaines du parc. Dans un angle, j'aperçus une ouverture semblable au pavillon d'une trompette encastrée dans un mur, et déjà de loin j'entendis qu'en provenaient des bruits. Je m'approchai et les bruits se firent plus distincts, jusqu'à ce que je puisse saisir des phrases claires et nettes comme si elles étaient prononcées à côté de moi. Une oreille de Denis. L'oreille était évidemment reliée à l'une des salles supérieures et recueillait les propos de ceux qui passaient près de son ouverture. « Madame, je vous dirai ce que je n'ai jamais dit à personne. Je suis là. J'ai travaillé sur le cinabre et sur le mercure. J'ai sublimé les esprits des ferments, des sels du fer, de l'acier et leurs écumes, et je n'ai pas trouvé la pierre. Ensuite, j'ai préparé des eaux fortes, des eaux corrosives, des eaux ardentes, mais le résultat était toujours le même. J'ai utilisé les coquilles d'œufs, le soufre, le vitriol, l'arsenic, le sel ammoniaque, le sel de verre, le sel alcali, le sel commun, le sel gemme, le salpêtre, le sel de soude, le sel à tinga, le sel de tartre, le sel à l'ambrotte. Mais croyez-moi, il faut vous en méfier. Il faut éviter les métaux imparfaits, rubifiés. Autrement, vous serez trompé comme je l'ai été moi-même. J'ai tout essayé. Le sang, les cheveux, l'âme de Saturne, les marcassites, l'Aes Oustum, le safran de Mars, les écailles et l'écume de fer, la litharge, l'antimoine, rien. J'ai travaillé pour tirer l'huile et l'eau de l'argent, j'ai calciné l'argent, aussi bien avec un sel préparé que sans sel, et avec de l'eau de vie. Et j'en ai tiré des huiles corrosives, un point c'est tout. J'ai employé le lait, le vin, la pressure, le sperme des étoiles qui tombent sur la terre, la chélidoine, le placenta des fœtus. J'ai mélangé le mercure aux métaux, les réduisant en cristaux. J'ai cherché dans les cendres même. Enfin, il n'est rien au monde qui demande plus de prudence que la vérité. La dire, c'est comme se faire une saignée au cœur. Assez, assez, vous m'exaltez. À vous seul, j'ose confier mon secret. Je ne suis d'aucune époque, ni d'aucun lieu. Hors du temps et de l'espace, je vis mon éternelle existence. Il y a des êtres qui n'ont plus d'ange gardien. Je suis l'un de ceux-là. Mais pourquoi m'avez-vous conduit ici ?
Une autre voix. Cher Balsamo, on est en train de jouer au mythe de l'immortel. Imbécile ! L'immortalité n'est pas un mythe, c'est un fait.
J'étais sur le point de m'en aller, ennuyé par ce caquetage, quand j'entendis Salon. Il parlait à voix basse, avec tension, comme s'il retenait quelqu'un par le bras. Je reconnus la voix de Pierre.
« Allons, allons, disait Salon, vous ne me direz pas que vous aussi vous êtes là pour cette bouffonnerie alchimique. Vous n'allez pas me dire que vous êtes venu prendre le frais dans les jardins. Vous savez que après Heidelberg, Decaux a accepté une invitation du roi de France pour s'occuper de la propreté de Paris.
Les façades ?
Il n'était pas Malraux. J'ai le soupçon qu'il s'agissait des égouts. Curieux, n'est-ce pas ? Ce monsieur inventait les orangeries et des vergers symboliques pour les empereurs. Mais ce qui l'intéressait, c'était le souterrain de Paris. En ces temps-là, il n'existait pas à Paris un vrai réseau d'égouts. C'était une combinaison de canaux à fleurs de terre et de conduits enterrés dont on savait bien peu de choses. Les Romains, dès les temps de la République, savaient tout sur leur cloaca maxima. 1500 ans après, à Paris, on ne sait rien de ce qui se passe sous terre. Et Decaux accepte l'invitation du roi parce qu'il veut en savoir davantage. Que voulait-il savoir ? Après le chaos, Colbert, pour nettoyer les conduits recouverts. C'était là le prétexte, et remarquez que nous sommes à l'époque du masque de fer. Y envoie des galériens. Ces derniers se mettent à naviguer dans les excréments, suivent le courant jusqu'à la Seine, et ils s'éloignent à bord d'un bateau, sans que personne ose affronter les redoutables créatures enveloppées d'une puanteur insupportable et de nuées de mouches. Alors, Colbert place des gendarmes aux différentes sorties sur le fleuve, et les forçats moururent dans les boyaux. En 3 siècles à Paris, on a réussi à couvrir à peine 3 kilomètres d'égouts. Mais au 18e, on couvre 26 kilomètres, et précisément à la veille de la Révolution. Ça ne vous dit rien ?
Oh, vous savez, cela !
C'est qu'arrivent au pouvoir des gens nouveaux, qui savent quelque chose que les gens d'avant ne savaient pas. Napoléon envoie des équipes d'hommes pour avancer dans le noir, au milieu des déjections de la métropole. Qui a eu le courage de travailler là-bas ? à cette époque, a trouvé beaucoup de choses. Des bagues, de l'or, des colliers, des bijoux. Que n'était-il pas tombé de qui sait où dans ces couloirs? Des gens qui avaient le cœur d'avaler ce qu'ils trouvaient, pour sortir ensuite, prendre un laxatif et devenir riches. On a découvert que nombre de maisons avaient un passage souterrain qui menait directement à l'égout.
Ça alors ?
À une époque où l'on jetait son vase de nuit par les fenêtres. Et pourquoi trouva-t-on dès ces temps-là des égouts avec une sorte de trottoir latéral et des anneaux de fer murés afin qu'on pût s'y accrocher ? Ces passages correspondent à ces tapis francs où le milieu, la pègre comme on disait alors, se réunissait. Et si la police arrivait, on pouvait s'enfuir et réémerger d'un autre côté.
« Feuilleton, pardi !»«
Ah oui, qui cherchez-vous à protéger, vous ?» Sous Napoléon III, le baron Haussmann oblige par décret toutes les maisons de Paris à construire un réservoir autonome. Et puis un couloir souterrain qui conduit aux égouts collecteurs. Une galerie de 2,30 m de hauteur et 1,30 m de largeur. Vous rendez-vous compte ? Chaque maison de Paris reliée par un couloir souterrain aux égouts. Et vous savez quelle est la longueur des égouts de Paris ? Aujourd'hui, 2 000 km. Et sur différents strates ou niveaux. Et tout a commencé avec celui qui a projeté à Heidelberg ses jardins.
Et alors ?
Je vois que vous ne voulez vraiment pas parler. Et pourtant vous savez quelque chose que vous ne voulez pas me dire.
Je vous en prie, laissez-moi, il est bien tard. Vais en m'attend pour une réunion.
Brute pas. Je ne comprenais pas à quoi voulait en venir Salon. Je regardais autour de moi, serré que j'étais entre la rocaille et l'ouverture de l'oreille, et je me sentis dans le sous-sol moi aussi sous une voûte, et j'eus l'impression que l'embouchure de ce canal phonurgique n'était autre que le début d'une descente dans des boyaux obscurs qui plongeaient vers le centre de la terre, grouillant de Nibelungen. Je sentis le froid. J'allais m'éloigner lorsque j'entendis encore une voix.
« Venez, on va commencer dans la salle secrète. Appelez les autres. »